pourquoi vous ne faites pas fonctionner toutes les turbines qu'il y a dans les centrales à la place de faire d'autres barrages?
Johnny nous a dit, on paye pour une ressource naturelle, avec augmentation des tarifs et un système qui flanche en un coup de vent.
Une corneille a picossé une pièce quelconque sur un transformateur juste au coin de ma rue. La corneille qui rêvait depuis sa naissance de devenir électricienne tomba au sol, en feu et sans vie.
Et bienvenue à Votre tweet est important pour nous, la série balado où on aborde les sujets qui vous font jaser sur les plateformes de médias sociaux. Et autour de la table, il y a les gens d'Hydro-Québec qui vous répondent. Jonathan Côté.
Bonjour Francis.
Gabriel Leblanc.
Allô Francis.
Et Pierre-Alexandre Buisson.
Bien à vous.
Dans le cadre de cette série-là, on a parlé de plein de choses. On a parlé de transition énergétique, on a parlé d'environnement, de production d'énergie, mais aujourd'hui, en fait, dans cet épisode, on prend un pas de recul. On va parler d'électricité 101. Et avec nous, pour en parler, on a Jonathan Drouin.
Oh.
Jonathan, vous êtes conseiller accueil, mais spécialisé dans les visites scolaires. Peut-être juste nous expliquer un peu ce que vous faites.
Oui, exactement. Donc, dans l'équipe accueil, on accueille des gens dans nos installations hydroélectriques. Puis, il y a des groupes scolaires, donc des écoles qui viennent nous voir directement. Puis moi, mon objectif, c'est d'adapter ce qu'on dit pour que ça soit compréhensible pour des groupes de tous âges.
Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici.
Exactement.
Parce que, humblement, il y a plein de choses. On a beau travailler à Hydro-Québec depuis des années, mais il y a plein de choses qu'on apprend tous les jours.
Si on avait quelqu'un à choisir parmi les 22 000 employés qui pouvaient bien nous expliquer c'est quoi l'électricité, je pense qu'on est tombé sur la bonne personne.
C'est bien pas juste ça. Moi, mais je fais partie de l'équipe qui s'en occupe, oui.
Et Jonathan, le concept de la série Balado, c'est qu'on prend des commentaires que les gens nous ont acheminés et on partage avec notre invité, en l'occurrence vous-même. Je pense que Jonathan, déjà, d'entrée de jeu.
Bien, là, on va commencer par le commencement, puis c'est une question, en fait, un commentaire qui a été publié sur Twitter par l'humoriste Martin Petit, alors qu'il y avait une panne d'électricité avec des milliers de personnes qui étaient en panne. Et il a tweeté ceci. Il dit « Une vraie catastrophe serait qu'Hydro-Québec ne rebranche le courant qu'à ceux qui sont capables d'expliquer clairement c'est quoi ou juste de l'électricité. » Admettons qu'on arrivait au stade où on décide effectivement de rebrancher juste ceux qui sont capables de nous l'expliquer. Tu peux-tu les aider?
On va essayer de faire ça le plus simple possible parce que c'est normal qu'on comprenne pas tous exactement c'est quoi l'électricité parce que c'est un phénomène qui est invisible, que bon, il y a pas tant de gens que ça qui connaissent exactement c'est quoi l'électricité.
On voit ça au secondaire là, dans
c'est
nos
ça,
cours de physique.
C'est
là,
ça. Loin, enfin, mais... je veux pas ramener des cauchemars à des gens qui ont fait ces cours d'électricité là au secondaire. C'est pas tout le monde qui l'ont dans leur cœur ce cours là. Donc je vais essayer de revenir à la base, essayer d'expliquer ça le plus clairement possible. Donc comme vous savez peut-être, on est composé d'atomes. Donc, tout ou presque qui nous entoure, c'est composé d'atomes. Donc, les atomes, c'est composé de trois particules. On pourrait aller plus profondément que ça, mais on va rester avec les particules les plus simples, les plus connues. Le proton et le neutron, qui sont dans le noyau de l'atome. Et on a les électrons, qui sont autour, qui vont graviter autour de notre atome. Puis, en gros, simplement, l'électricité, c'est un mouvement des électrons. Mais il faut que ce soit un mouvement ordonné. Donc, les atomes qu'on a, moi, j'ai des atomes sur moi en ce moment, puis il y a des échanges d'électrons qui se font, mais de façon un peu aléatoire. Pour avoir un courant électrique, il faut pousser les électrons dans un sens en particulier pour qu'on puisse avoir de l'électricité, puis ça nous permet d'allumer ce qu'on a à la maison.
Donc, il faut qu'on organise le mouvement des électrons.
Exactement.
Est-ce qu'il faut mettre de la musique entraînante ou...
Généralement, ça prend un gros appareil. Il y a plusieurs appareils qui existent pour le faire, mais un alternateur, c'est ce qui est le plus courant.
Dans le fond...
Le plus courant.
Dans les cours de physique, de la façon qu'il l'expliquait dans mon temps, c'est que les électrons, dans le fond, ils se déplaçaient, ils allaient de l'avant à l'arrière, ils se déplaçaient pour changer, en fait, d'orbite. Est-ce que c'est exact?
Bien, ils vont toujours avoir un peu une interaction entre les différents atomes pour les électrons. Donc, ils ne vont pas rester statiques tout le temps. Il y a toujours un petit peu d'échange qui va se faire. Mais c'est de façon aléatoire. Mais pour avoir un courant électrique, il faut vraiment inciter les électrons à se déplacer d'un seul sens.
Et donc, comment on fait, nous, pour justement organiser le mouvement de ces électrons?
Pour organiser le mouvement des électrons, il y a plusieurs façons de le faire. Au Québec, on va le faire avec des centrales hydroélectriques. Puis dans les centrales, on va avoir des alternateurs. Donc, on utilise la force de l'eau pour faire tourner des turbines et tourner les alternateurs. Donc, des alternateurs, c'est composé d'aimants, d'électro-aimants. Puis, ils vont être organisés dans une certaine façon pour que les électrons vont interagir avec le champ magnétique des aimants. Donc, le mouvement de l'électricité, les électrons réagissent avec le champ magnétique des aimants. Puis, c'est ça qui va les inciter à bouger d'un sens ou de l'autre. Puis, avec les alternateurs, ce qui est particulier, c'est qu'on va avoir plein d'aimants qui sont organisés autour et on va avoir des aimants qui ont un pôle nord et un pôle sud. Donc, les électrons vont être attirés ou poussés par le pôle nord et l'inverse par le pôle sud. Donc, vu qu'on fait tourner notre alternateur, bien, ça va faire pousser nos électrons d'un sens et ils vont revenir de l'autre. On pousse, on revient.
Donc, ça se fait en alternance, d'où le terme alternateur.
Exactement.
On va se coucher moyen yeux.
C'est profond.
Donc, ça va nous créer du courant alternatif, mais ce n'est pas le seul type de courant qui existe. Mais dans nos centrales hydroélectriques, dans les éoliennes, ça va être la même chose. Dans les centrales thermiques qu'il peut y avoir ailleurs, puis qu'on a au Québec aussi, ça va être la même chose avec des alternateurs.
Mais dans le fond, c'est une question qu'on avait reçue là-dessus sur la différence entre le courant alternatif et le courant continu. Pete nous avait dit « Edison poussait le courant continu et l'art génératrice ». Pas trop bon sur les longues distances. Tesla s'est intéressé au courant alternatif, entre autres. Là, on vient de parler du courant alternatif. Est-ce que tu peux nous démêler ces deux concepts-là?
Oui, le courant alternatif, comme j'ai dit, c'est avec des alternateurs qu'on a un mouvement de va-et-vient. C'est ce qu'on a dans les prises électriques à la maison. On a du courant qui a une certaine fréquence, donc le nombre de mouvements de va-et-vient, qui est de 60 en Amérique du Nord. Donc le 60 Hz ou le 60 cycles, c'est ce qu'on a en Amérique du Nord. Donc si vous prenez votre téléphone cellulaire et vous prenez un vidéo ralenti des lumières à la maison quand c'est la nuit, donc à 4 heures ces temps-ci, là, ben on va voir vraiment que l'ampoule s'allume et s'éteint en alternance. Donc, on va voir vraiment que ça clignote. Donc, ce n'est pas un courant qui continue, c'est un courant qui va et qui vient. Donc, ça, c'est le courant alternatif.
Donc, la lumière n'est pas allumée en continu.
Non.
Comme si elle flashait, mais tellement vite qu'on ne s'en rend pas compte.
Exactement.
Hein? Jean-Marc Parent est passé dans le réseau.
Voilà.
Et pour le courant continu, comment ça fonctionne? Puis nous, on l'utilise à quel endroit sur notre réseau, le fameux courant continu?
Donc, le courant continu, je vais y aller avec la source du courant continu. La plus fréquente qu'on va retrouver un peu partout, c'est des batteries, des piles. Donc, on a un pôle positif, un pôle négatif, puis les électrons vont voyager d'un pôle à l'autre. Donc, c'est toujours continu, c'est du point A à un point B. Donc, on va avoir ça dans les batteries pour faire fonctionner certains appareils à la maison. Pour recharger aussi, on a besoin de faire du courant continu. Donc, la petite boîte de plastique là, qu'on branche dans le mur avec un fil qui recharge notre téléphone, bien, cette boîte-là va transformer le courant alternatif de notre maison et la transformer en courant continu pour pousser des électrons, recharger notre batterie. Dans notre réseau électrique, on peut avoir du courant continu aussi. Donc, on a une ligne à courant continu qui est sur notre réseau, qui part de Radisson à la baie James et qui se rend jusqu'à Sandy Pond à Boston. Cette ligne de courant-là, ben, est à haute tension. C'est du courant continu. Donc, on est capable d'exporter, d'envoyer de l'énergie au sud du Québec, puis aussi faire des exportations avec cette ligne-là.
Pierre-Alexandre. Un commentaire à soumettre
oui.
À notre invité.
Dans la Grèce antique, les citoyens qui voulaient débattre avaient l'agora. De nos jours, ils ont Facebook et Twitter. Et il y a deux personnes qui s'obstinaient sur l'électricité sur Facebook dans un échange. Et il y en a un qui semblait pas trop savoir de quoi il parlait. Donc, on a André qui lui a dit « Éric, une petite formation qui t'expliquera la différence entre la puissance kilowatt et la consommation kilowattheure et tout sera plus clair. » Est-ce que tu peux, pour nous simples mortels, nous expliquer c'est quoi la différence entre ces deux concepts-là?
Et pour Éric.
Oui. Oui, et pour Éric.
Oui, pour Éric. C'est des concepts qui sont quand même assez compliqués. Je vais essayer d'utiliser une analogie le plus simple possible. Donc, la puissance de l'électricité, je vais essayer de la comparer avec un moteur de voiture, donc une voiture à combustion. Donc, ça a une certaine puissance aussi, mais cette puissance-là va être mesurée en chevaux-vapeur, pas en kilowatts. Kilowatt va être censé pour de l'électricité, mais pas vraiment pour un véhicule à essence. Donc, les chevaux-vapeur, si on se dit, il y a un véhicule qui a 200 chevaux-vapeur de puissance, bien, c'est un peu sa puissance maximale. Donc, sa capacité à accélérer plus rapidement ou à tirer des plus grandes charges. Donc, ça, c'est la puissance de du véhicule. Puis, plus on va utiliser le véhicule longtemps, donc on va utiliser sa puissance de 200 chevaux vapeur, puis on va l'utiliser dans le temps, donc on va rouler plus longtemps, bien ça, ça va consommer de l'énergie. Donc un peu l'essence, le réservoir à essence, c'est ça l'énergie qu'on va avoir. Donc plus on utilise le moteur longtemps, bien plus notre tank à essence, notre réservoir d'essence va se vider tranquillement. Puis c'est un peu le parallèle entre les deux. Les kilowatts, c'est la puissance du moteur, puis les kilowattheures, bien c'est l'énergie. Donc on multiplie les kilowatts, qui est un terme de puissance, c'est les watts, mais vu que si on prend 1000 watts, ça fait 1 kilowatt, un peu comme des mètres et des kilomètres. Donc, si on en a 1000 et qu'on utilise 1 kilowatt pendant une heure, donc un moteur d'1 kilowatt pendant une heure, bien, on va avoir consommé 1 kilowattheure d'énergie. Des fois, là, j'ai utilisé le kilomètre, mais des kilowattheures, c'est pas la même chose. Ça sera pas la même transition que le kilomètre-heure.
Parce que mélange. Je me rappelle, quand j'ai commencé à apprendre sur l'électricité, ça, c'est vraiment, là, ça me mêlait tout le temps. Parce que c'est comme le contraire, finalement.
C'est un peu un abus de langage d'utiliser le kilomètre-heure, parce que quand on va à une certaine vitesse, ben c'est des kilomètres par heure. Donc, c'est des kilomètres, une distance divisée par une unité de temps. Alors que le kilowattheure, bien, c'est de la puissance multipliée par une unité de temps.
Est-ce que tu l'expliques aux jeunes qui font les visites, tout ça?
Je vais essayer d'adapter selon où est-ce qu'ils sont rendus dans leurs apprentissages.
Jonathan, un commentaire pour notre
invité. Oui, il y a Richard qui nous a posé une question, puis ça aussi, je me rappelle, ça m'avait fasciné quand j'ai appris ça initialement sur le réseau électrique. Bien là, Richard nous demandait, il dit, pourquoi vous ne faites pas fonctionner toutes les turbines qu'il y a dans les centrales à la place de faire d'autres barrages? Donc lui, ce qu'il considère, c'est qu'on a de la capacité de lousse, puis parce qu'il a appris que des fois, il y a des turbines qui ne roulent pas dans les centrales. Pourquoi qu'on ne fait pas fonctionner toujours toutes les turbines?
Bien, parce qu'on n'a pas toujours besoin de toutes les turbines. Parce qu'il y a toujours un équilibre entre la production électrique puis la consommation d'électricité. Donc, quand on ouvre la lumière à la maison, on part le four, on fait chauffer des toasts, bien, ça va augmenter la demande, donc la consommation de la clientèle, donc la demande d'électricité. Puis nous, bien, on doit s'ajuster en temps réel avec la production d'électricité. Donc, c'est toujours exactement la même chose. Petite variation, ce qui va faire un peu varier la fréquence, mais on essaie de garder ça égal. Donc, si on est au printemps, une journée qui fait 15 degrés Celsius, relativement doux, ben on n'aura pas besoin de toute la capacité de nos centrales. Parce que chez Hydro-Québec, on a 37 000 mégawatts de puissance, mais la demande réelle à ces moments-là, c'est autour de 15 000 mégawatts. Mais là, on se ramasserait à produire de l'énergie pour rien, puis on peut pas la stocker après qu'elle soit produite. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'égaliser ça le plus possible.
On a un collègue qui travaille en centrale à la baie James et qui nous avait dit, c'est comme un peu une espèce d'élastique, puis si ça tire trop d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, l'élastique va briser.
Exactement.
Tu veux pas briser l'élastique.
On veut pas briser l'élastique de l'électricité.
Non.
Notre électricité au Québec est faite de sources renouvelables, donc on a l'éolien avec le vent, on a l'énergie solaire avec le soleil, l'hydroélectricité avec l'eau. C'est toutes des ressources naturelles gratuites. T'es d'accord avec moi?
Oui.
Ce qui peut amener de la confusion, par contre, chez certains clients. Johnny nous a dit, 2023, on paye pour une ressource naturelle, avec augmentation des tarifs et un système qui flanche en un coup de vent. Donc, les gens ont tendance à penser que comme on utilise principalement de l'eau pour produire de l'électricité, ça devrait être gratuit. Puis généralement, je réponds à ces gens-là, à la blague, avez-vous déjà essayé de brancher votre grille-pain directement dans votre robinet? Est-ce que cela fonctionne bien? Fait qu'il y a quelques étapes entre l'eau et la production d'électricité. Pourquoi on fait payer cette ressource gratuite-là? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qui vient entre le bassin d'eau et justement la prise à la maison?
Oui, bien, c'est sûr que si on avait juste à brancher nos électros dans la rivière à côté de la maison, ça serait facile.
Il n'y aurait pas d'Hydro-Québec, peut-être.
Non, c'est ça, il n'y aurait pas d'Hydro-Québec.
Mais les gens qui ne sont pas riverains seraient mal pris par ça.
Oui, oui, il faudrait trouver un autre moyen, puis on pourrait prendre du vent, mais là, je vais l'expliquer.
Brancher comme ça dans la rue, là, ça devient compliqué.
C'est ça, il faut toujours garder notre bras dans les airs, c'est pas ce qui est le plus pratique.
C'est pour ça que vous payez, dans le fond.
C'est ça. Donc, si on parle des centrales hydroélectriques, bien, on veut utiliser la force de l'eau pour transformer ça en électricité, parce que la force de l'eau, c'est une énergie qui est mécanique. Fait qu'on peut pas vraiment utiliser l'énergie mécanique comme ça pour faire allumer notre lumière. Donc, on a besoin d'instruments pour transformer cette énergie mécanique-là en énergie électrique. C'est ce qu'on va faire dans nos centrales. On prend nos turbines qui vont prendre l'énergie de l'eau. Ça fait tourner nos turbines. Puis, ce mouvement de retention-là va aller dans nos alternateurs. Puis, l'alternateur, ben, en tournant, transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc, il faut construire des centrales au départ pour pouvoir faire produire notre électricité. Donc, ça, c'est un point. Après, il faut la transporter, cette électricité-là, parce que nos centrales hydroélectriques, bien, ceux qui sont pas loin de Montréal, bien, on en a des centrales hydroélectriques, ça va quand même bien. Ceux qui sont à la baie James aussi, sur la Côte-Nord, mais ceux qui sont à peu près en plein centre, bien, ça ne veut pas dire qu'il va avoir une centrale hydroélectrique qui est à quelques kilomètres de chez eux. Donc, il faut transporter cette électricité-là. Puis ça, c'est les pylônes qu'on a un peu partout. Si on voyage un peu au Québec, on va avoir des pylônes électriques qui sont très, très gros.
Ça, ils ne donnent pas les compagnies de pylônes?
Non, malheureusement. C'est pas gratis. Les pylônes, les fils non plus. Donc, les fils qui sont en aluminium, les gens qui les posent.
C'est pas du bénévolat, les employés d'Hydro-Québec?
Non, ben pas à ma connaissance.
Vous êtes gage, vous êtes payé, vous autres?
Non, mais j'allais dire, t'as pas de cachet pour cet épisode-là. Hein? Je sais pas si on te l'avait dit avant. OK, parfait.
Donc, il faut installer les pylônes, il faut entretenir aussi. Donc, chose que j'ai pas parlé de la centrale hydroélectrique, il faut l'entretenir aussi. Mm-hmm. Et on a des centrales qui sont centenaires chez Hydro-Québec. Là, donc, on peut pas dire, bon, ben, une fois c'est construit, on s'en occupe plus, puis ça tombe tout seul. Il faut avoir des gens qui sont là, il faut l'entretenir, il faut changer les équipements.
Il faut avoir des peppermans dans les poches pour les centrales centenaires.
Exactement, exactement. Pour les entretenir et les entertainer, les centrales centenaires. Donc, le réseau de transport, c'est la même chose. Il faut l'inspecter. Les lignes, oui, la durée de vie d'une ligne, ça peut être quand même assez long. Ça peut aller jusqu'à 75 ans. Mais notre réseau électrique est quand même assez vieux, mais on renouvelle des lignes tout le temps. Donc, il faut entretenir vraiment les lignes. Puis ça a un coût associé à ça. Puis ensuite, il y a une autre partie, c'est la distribution.
Ben, genre,
ça commence à être long. Là. Ouais. Donc, la distribution, bien là, on va prendre l'énergie ou l'électricité qui vient des pylônes. On va amener ça dans un poste électrique. Puis, ce poste électrique-là va transformer l'énergie pour que ça soit adapté à notre réseau de distribution. Donc, le réseau de transport, j'ai parlé des volts tout à l'heure. Dans les maisons, c'est du 120 volts. Sur notre réseau de transport électrique, ça peut aller jusqu'à 735 000 volts.
Ton téléphone, il se rechargerait vite en tabarnouche, là, à la maison.
Il n'aimerait pas ça.
Donc, on fait baisser la tension, ce qui revient à la leçon de tout à l'heure.
Oui. Exactement.
Dans cet épisode-là, on passe à travers plusieurs gammes vraiment intéressantes d'émotions. Je vais te raconter une petite histoire. Soyez patients, c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine. Donc, Simon nous a écrit « En juin 2022, une corneille a picossé une pièce quelconque sur un transformateur juste au coin de ma rue. Tout à coup, une forte détonation avec un flash lumineux se produisit. Résultat, la corneille qui rêvait depuis sa naissance de devenir électricienne tomba au sol en feu et sans vie. » De plus, une panne de courant s'ensuivit pour une durée de 3h30. Il serait important que vos chercheurs et chercheuses se penchent sur ce problème afin que cela ne se produise plus, afin que des corneilles puissent réaliser leurs rêves.
Devenir des crispy critters.
Je suis contente! Oh! Oh!
Il y a quelqu'un qui a fait ses devoirs ici.
Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, c'est dans notre épisode de...
Sur les pannes, je pense.
Tout ça, ça m'amène à une question pertinente quand même. C'était pas juste pour le LOL. pourquoi des équipements potentiellement dangereux et compromis sont-ils laissés à l'air libre?
Parce qu'on ne veut pas isoler tous les équipements. On essaie d'isoler ce qui peut être en contact avec les gens. Évidemment, on veut pas que la corneille ne puisse pas réaliser son rêve d'être à l'intérieur d'un transformateur. L'enjeu, en fait, de la corneille ou d'un écureuil, par exemple, qui pourrait se retrouver dans la même situation, c'est qu'il va être sur le conducteur électrique, donc sur les poteaux électriques ou les poteaux, tout dépendant d'où est-ce qu'on vient. Conducteurs qui sont en haut complètement du poteau/poteau ont ces sont à l'air libre. Donc, on ne va pas les isoler. Ceux qui sont les plus proches du sol, qui vont se connecter à la maison, ceux-là, on va les isoler. Pourquoi on n'isole pas ceux qui sont en haut? Parce qu'on n'a pas vraiment besoin. L'air ambiant est un très bon isolant électrique. L'électricité ne veut pas voyager à travers l'air, sauf si la tension est vraiment immense. Donc, on n'aura pas à isoler ces lignes-là. Puis, pour nos lignes électriques, je vous rappelle qu'on a 120 000 km de lignes de distribution d'électricité, puis 35 000 km de lignes de transport.
Ça devient très cher.
Isoler tout ça avec du PVC, avec du caoutchouc, c'est un
peu dispendieux. Pour certains ratons laveurs, c'est de la discrimination animale, mais passons.
Parce que honnêtement, il y a des coûts à ça, évidemment, mais aussi ça viendrait alourdir là, les fils. Donc, mais on entend quand même parfois quand on passe le proche de certaines lignes, une espèce de crépitement. Mm-hmm. Ça, c'est l'effet couronne. Oui. Parce que tu dis, ça voyage pas dans l'air, mais il y a quand même, selon le taux d'humidité et tout ça, des électrons sur le party.
Oui, sur le party. Oui. Donc, c'est des petites fuites d'électricité, mais c'est normal. L'électricité va vouloir avoir tendance à un peu se sauver par les pointes. Donc, dans nos équipements électriques, on n'a pas tout fait en sphère complète pour éviter le plus de pointes possible. On va avoir des bouts qui vont être un petit peu plus pointus. Les électrons vont vouloir s'échapper par là un petit peu. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe, ce qui va créer un peu l'effet couronne. Puis, cette fuite d'électricité-là, mais c'est ce qu'on va entendre, les petits crépitements qui sont près de nos lignes. Et c'est pas dangereux, ces crépitements-là. C'est pas dangereux, cette fuite d'électricité-là.
Donc, c'est pas dangereux, l'effet couronne, évidemment, mais les gens le remarquent quand même. On a Laetitia qui nous avait écrit « C'est une horreur de passer là-dessous en vélo de montagne quand on n'a pas le choix. Je prends des espèces de joutes à chaque fois. Je sais pas si c'est le fait d'avoir un cadre en carbone, mais un sacre habilement censuré avec des étoiles, que c'est pas agréable. Je suis parfois obligée de descendre du vélo. Est-ce que cette personne-là est particulièrement électrique? Qu'est-ce qui se passe?
Il y a des gens que le courant passe un petit peu mieux.
Ça, c'est des super conducteurs, c'est
parfois,
ça?
Parfois, on remarque avec des gens, le courant passe.
Oui, oui.
Le courant passe
Donc, c'est pas juste l'effet couronne qui fait ça.
C'est le vélo qui empire son affaire?
Oui, c'est le vélo qui va empirer son affaire. En fait, c'est la distance entre le corps humain et le sol. Donc, c'est une différence de potentiel électrique. Je m'explique. Quand on a un fil électrique, peu importe où, mais plus la tension est élevée, plus on va le voir. En fait, il y a un champ électrique qui va émaner de ce fil-là, n'importe quel conducteur. Donc, ça va émaner autour, un peu comme un feu de camp. Donc, autour d'un feu de camp, plus on est loin, moins on a de chaleur. Bien, c'est un peu le même principe avec le champ électrique. Donc, on va partir... On a un gros champ électrique quand on est près des fils, puis plus on s'éloigne, plus il va être petit. Quand on est dans un champ électrique, si on est sous la ligne, on va être soumis à un champ électrique. Encore là, c'est pas dangereux, mais on va accumuler un petit peu d'électrons sur nous. Donc, une certaine quantité d'électrons qui reste relativement minimum.
C'est quand... un peu comme au primaire, les chaises en plastique. Là,
les chaises en plastique, avec les rebords en métal, les glissoires en plastique aussi. Là, quand on est jeune, il y a soit se faire électrocuter, soit se faire brûler là, en métal ou en plastique. Là.
C'est un peu comme les boules sur lequel tu mets ta main, puis là, tes cheveux...
Un générateur de Van de Graaff.
Pour moi, c'est un souvenir, parce que...
Oui. Mais on le ressent quand même sur les poils d'avant-bras, on peut le ressentir aussi, là, ça on peut le voir.
Ça ressemble à ça, les façons qu'on accumule
c'est
la charge.
Donc, ça peut être avec le générateur de Van de Graaff ou en se frottant sur une chaise en plastique, ouais. C'est de l'électricité statique. C'est un peu différent, mais okay. Ça va être un peu le même principe. On va accumuler des électrons, un surplus d'électrons sur nous, puis malheureusement, pour ceux qui sont en vélo, ben, ils sont isolés du sol. Donc, ils accumulent une certaine quantité d'électrons, mais le vélo, lui, vu qu'ils sont isolés par les petites poignées en caoutchouc ou le siège en caoutchouc ou en plastique, bien, on va avoir un potentiel électrique qui est non nul, et le vélo, vu qu'il est collé au sol, bien, lui, il va être nul. Donc, c'est le transfert des électrons. Quand on va toucher un petit peu ou quand on va se rapprocher, nos jambes vont pédaler, puis quand on va se rapprocher du cadre en carbone, on va avoir une petite décharge électrique. On va rétablir l'équilibre électrique. Mais il se recrée tout le temps, ce déséquilibre-là. tant qu'on est sous la ligne à haute tension, quand on est encore dans ce champ électrique-là. Donc, si on veut éviter ça, bien, on peut prendre une de nos mains puis l'accoter sur notre vélo, une partie conductrice du vélo. Donc, le carbone est un conducteur. Donc, on peut garder une main comme ça. Comme ça, on va être dans le même potentiel électrique où on va libérer le surplus d'électrons.
C'est pas un choc électrique qui provient de la ligne. Les gens ne sont pas électrisés.
Non, pas du tout. Bien, ils sont électrisés, mais il n'y a aucun danger.
La dame avec son vélo pourrait atténuer l'impact en s'agrippant, en mettant une main sur le cadre.
Pendant tout le temps qu'elle traverse.
Qu'elle passe. J'espère qu'elle écoute l'épisode parce que c'est un excellent truc.
Des questions quiz peut-être, M. Côté?
Oui, je vais vous demander, qu'est-ce qu'on peut faire avec un kilowattheure? Donc, je vais vous donner différentes utilisations pour vous essayer de répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, combien d'heures peut-on faire tourner un ventilateur de plafond avec un kilowattheure?
3 heures.
3 heures?
2.
2?
On dirait 10.
Oh. La réponse, c'est 20 heures, parce qu'un ventilateur de plafond, en moyenne, c'est 50 watts. Donc, pour 20 heures, ça fait 1 kWh.
Ça consomme peu quand même.
Quand même, assez impressionnant, effectivement. Mm. Combien de sacs de popcorn on peut se faire au micro-ondes avec 1 kWh?
Ah, je vais laisser Jonathan répondre en premier.
C'est 3 minutes par sac, puis c'est à peu près 1000 watts, donc 1 kW pour faire fonctionner. Je pense que c'est 1,5. On va dire une vingtaine.
Ben, t'es pas pire proche, c'est 17. Remarque, peut-être que ça dépend du micro-ondes.
Peut-être
que
ça dépend du micro-ondes.
Parce que moi, dans l'exemple ici, le micro-ondes, il utilisait 1200 watts. Peut-être que c'est un micro-ondes de 1000 watts.
Je suis dans le gros cube brun, ça
cuit.
Le gros micro-ondes. Combien on peut se faire de rôti avec 1 kWh? Une toast dans un grille-pain standard à 2 tranches. Mettons, c'est une tranche.
Juste une tranche ou deux?
Ouais. Juste une. Une routine.
Tranché épais ou tranché mince, ton pain?
Ben, techniquement, si tu ne mets même pas de pain dedans, puis tu descends le routine, ça cuit pareil, ça cuit du vide.
Ça mélange. Moi, j'aurais dit une cinquantaine.
Je pense. Écoute, t'es vraiment pas pire proche. C'est 60. Un grille-pain à 2 tranches, du 800 watts, utilisé 30 fois. Combien d'heures de films on peut regarder avec 1 kWh?
Genre Lord of the Rings version longue ou...
c'est le nombre d'heures, hein? Fait que tu peux mettre les émissions que tu veux ou les films que tu veux. Donc, mettons, un lecteur Blu-ray avec une télévision de 42 pouces.
Combien d'heures? Moi, je dirais 8.
Moi, je dirais achète ta nouvelle télé.
8, mais je vais attendre la réponse de Jonathan.
Ben, encore là, honnêtement, t'es très proche, mais Jonathan, tu sais.
J'aurais dit moins un peu, mais.
C'est 9 heures. Tu peux regarder 9 heures de film. Donc, écoute, avec 1 kWh, tu peux manger 60 toasts ou regarder 9 heures de film.
Moi, j'irais pour les toasts perso.
Donc, voilà.
Ça va avec le popcorn aussi.
Et une autre question. Là, je m'attends, Gabriel, à ce que tu sois celle qui puisse répondre à cette question mieux que les autres. Combien de temps à se sécher les cheveux? PA, je pense pas qu'il soit capable de répondre à cette
question. Aucune expérience en ce domaine.
Là, j'ai pas beaucoup de patience pour me sécher les cheveux, fait que je me baserai pas sur mon expérience personnelle, mais je dirais. Ça tire, me semble, un séchoir. Moi, j'irais avec 1h30.
Puis, Jonathan, tu veux s'asseoir de.
30-40 minutes?
La réponse est 40 minutes.
Ah, bravo. Oui!
C'est 1500.
Ouais, parce que, en fait, c'est un des trucs les plus énergivores, étonnamment. Là. Donc, séchoir, c'est 1500 watts. Donc, 40 minutes.
Efficacité énergétique.
Voilà. Pas de cheveux. Très bien. Okay, deuxième partie, il n'y a pas beaucoup de questions dans celle-là. C'est sur la répartition de notre consommation à la maison. Ça, ça devrait être pas pire quand même. Quelle proportion de la consommation d'électricité à la maison est attribuable à l'éclairage?
10%.
J'allais dire à peu 5%. Près ça.
C'est 5%. Donc, c'est pas tant que ça, surtout qu'aujourd'hui, on est beaucoup avec de l'éclairage à DEL. Donc, évidemment, ça prend une moins grande part de notre consommation. Quelle proportion de notre consommation d'électricité est attribuable au chauffage et à la climatisation?
70.
Ouais, ça, c'est beaucoup. Moi, j'aurais dit un 60. 60 ouais. Parce que moi, j'utilise mon séchoir régulièrement.
La réponse, c'est 54% pour les ménages qui chauffent à l'électricité.
Je ne l'ai pas dit.
Et dernière question du quiz. Quelle proportion de notre consommation d'électricité est attribuable à l'eau chaude?
7.
15.
30%.
20.
Oh! 20?
La réponse, c'est 20%.
Bravo. Oh, tabarnouche, pour ça donc, tu répondais pas.
Donc, si on met ensemble eau chaude et chauffage, c'est vraiment la forte majorité de notre consommation. C'est pas avec l'éclairage qu'on va faire les plus grosses économies. Et c'est pas non plus en regardant des films, parce qu'on peut en regarder quand
donc,
même pas mal.
Donc, flashez vos lumières allègrement.
Voilà. Mais prenez des douches plus courtes.
Ou plus fraîches.
Voilà.
Plus froides.
C'est bon pour les muscles.
Donc, si on résume l'épisode, on peut dire que l'électricité, ce n'est pas simple, que les groupes scolaires sont entre très bonnes mains avec Jonathan Drouin et que, n'en déplaise aux corneilles, l'air est un excellent isolant pour l'électricité.
Exactement.
Merci beaucoup, Jonathan Drouin, d'être venu nous expliquer tout ça. On a appris énormément. Quant à vous, à la maison, on vous invite à regarder les autres épisodes à la lumière de ce qu'on vient d'apprendre. Bonne écoute!